écrit par un Français, est connu dans le monde entier. Il a été mis en musique en 1847 et il est chanté à chaque Noël partout dans le monde. Il s'agit du chant « Minuit chrétien ». Alors, hop là, diaporama. Ce cantique traditionnel a une histoire très intéressante qui peut nous faire réfléchir sur le vrai sens de Noël. Cette semaine, j'ai fait des recherches sur ce chant. Je suis tombé sur plusieurs articles, même des articles de spécialistes qui ont écrit des livres. Et un article s'intitule « Minuit chrétien, est-il vraiment chrétien ?» Effectivement, comment se fait-il qu'un auteur anticlérical ait pu, non chrétien, selon lui, ait pu écrire un texte si apprécié dans le monde chrétien, avec des paroles qui reflètent quand même le message biblique? Je vous propose une réflexion en plusieurs étapes. D'abord, nous allons parler de l'auteur, des circonstances, ensuite des circonstances de rédaction du texte, ensuite du contexte politique, et en conclusion, nous allons parler de nous. Que peut-on apprendre de l'histoire de ce chant? Alors notre réflexion, je vous rassure un peu, se fera à l'aide de la Bible. Je vous ai dit que je ne prêcherai pas sur un texte en particulier, mais ma réflexion sera tout de même biblique, j'espère. Et nous verrons comment cela nous aide à saisir le sens profond de Noël. Commençons par l'auteur de « Minuit chrétien ». Il s'appelle Placide Capot. Il est né en 1808 à Roquemort, dans le Gard, pas loin de Nîmes. Son père était tonnelier, c'est-à-dire qu'il fabriquait des tonneaux pour la fermentation et le stockage du vin. Normalement, donc Placide Capot aurait dû reprendre l'activité de son père, mais il a eu un accident dans sa jeunesse. Il a fait quelques bêtises et il a perdu l'usage de sa main droite. Et donc il ne pouvait pas fabriquer de tonneaux. Il est donc devenu négociant en vin, et il écrivait aussi des poèmes. C'était un ami de Lamartine, le célèbre poète et romancier, qui deviendra aussi un homme politique connu, car il a fait partie des premiers chefs du gouvernement, parce que le gouvernement de la Deuxième République française, c'était un collège, c'était le chef de l'État était un ensemble de personnes et Lamartine en faisait partie. Alors je parle un peu de politique, car Placide Capot était un républicain, socialiste et ouvertement anticlérical. Il ne croyait pas que Jésus est venu sauver l'humanité de ses péchés. Alors en apprenant ce genre d'informations, comment réagissons-nous? Moi j'étais quand même troublé. Sommes-nous troublés? En fait, ce genre de situation, malheureusement, n'est pas rare dans le milieu chrétien. Il y a 15-20 ans, peut-être une vingtaine d'années, un livre de témoignages chrétiens a eu un succès mondial. L'auteur racontait à quel point il vivait des choses extraordinaires avec Dieu. Cet homme a été invité à des conférences. Des milliers de personnes sont allées l'écouter. Beaucoup de jeunes se sont convertis suite à la lecture de son livre. Quelques années plus tard, cela a été le choc. Quelqu'un a eu l'idée de vérifier si son témoignage était véridique. Il se trouve qu'il racontait beaucoup de mensonges. En fait, ça a commencé par de l'exagération et c'est devenu des mensonges. Je ne sais pas comment ont réagi les personnes qui se sont converties suite à son faux témoignage, mais cela a dû en troubler beaucoup. Plus récemment, un grand prédicateur et orateur célèbre dans le milieu évangélique a fait l'objet d'un scandale. Cet homme a formé des milliers d'étudiants à défendre la foi chrétienne. J'ai moi-même suivi l'une de ses formations en ligne. Il a créé une dynamique mondiale et il a aidé beaucoup de chrétiens à témoigner de leur foi. Il semblerait même que beaucoup de personnes se sont converties suite à ces conférences. Le drame, c'est qu'après sa mort, on a découvert qu'il avait une vie cachée. Une vie cachée avec une morale à l'opposé de ce qu'il prêchait. Que peut-on dire, que peut-on apprendre de tous ces contre-exemples ? Que ce n'est pas à l'homme qu'il faut regarder, mais à Christ. Ce n'est pas à l'homme qu'il faut regarder, mais à Christ. À l'époque romaine, il y avait le culte de l'empereur. Aujourd'hui, nous avons le culte des célébrités, et même des célébrités, entre guillemets, chrétiennes. Cela me rappelle une parole de l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 4 à 7. Quand l'un dit « Moi, je me rattache à Paul » et un autre « Moi, à Apollos », n'êtes-vous pas animé par votre nature ? Qui est donc Apollos et qui est Paul ? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose, qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Dans l'église de Corinthe, il y avait des disputes. Les uns étaient plus attachés à Paul, les autres à Apollos. Alors dans notre cas, Paul et Apollos sont des serviteurs fidèles à Dieu. Mais ils sont mis en concurrence et ils font l'objet d'une vénération excessive. L'apôtre rappelle bien que ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose, qui compte, mais bien Dieu. Les prédicateurs et les pasteurs sont juste des serviteurs au même titre que tous les autres chrétiens. Et si un jour vous me voyez commettre une erreur, ne soyez pas étonnés. Je suis autant humain que vous. Lorsque j'ai quitté mon poste pastoral dans le sud pour venir à Gobert, l'église que je quittais n'avait pas encore trouvé de pasteur pour reprendre la suite. Certaines personnes étaient très inquiètes. Elles s'inquiétaient que si des nouvelles personnes arrivaient dans l'église et qu'il n'y a pas de pasteur, eh bien ces personnes nouvelles ne resteraient pas dans l'église. C'était une crainte. Et cela m'a interpellé à plusieurs niveaux. Si les gens viennent régulièrement dans une église, est-ce dû à l'attachement à un être humain ? Est-ce que le pasteur est un intermédiaire entre l'humanité et Dieu ? Pour rassurer les membres de cette église, j'ai rappelé à plusieurs reprises que la personne centrale dans une église ne devrait pas être un pasteur ou une personnalité. La personne centrale, c'est le Christ. Et tant que le Christ est présent, proclamé, célébré, loué, adoré, alors l'essentiel est là. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas besoin de pasteur, mais il y a besoin surtout de chrétiens qui célèbrent le Christ en esprit et en vérité. Et en tant que protestants, nous sommes d'autant plus sensibles à cela, car l'un des slogans de la réforme est le « Solus Christus ». Le Christ seul. Les réformateurs ont proclamé que le seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, c'est Jésus seul. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Revenons à Placide Capot et à l'auteur de Minuit chrétien. Quelles que soient ses convictions religieuses, qu'il soit chrétien ou pas, ce n'est pas lui qui compte, c'est le Christ. Et si le texte qu'il a écrit nous invite à célébrer fidèlement le Christ, l'essentiel est là, le reste est secondaire. J'aimerais maintenant parler du contexte d'écriture de ce texte. Selon certains spécialistes, il y aurait deux versions concernant l'origine de la rédaction de ce chant. Selon la première version, le texte du chant aurait été écrit en 1843. Une chanteuse nommée Émilie Lauret aurait demandé à Placide Capot de lui écrire un chant sur le thème de Noël. Elle l'enverrait ensuite à son maître, qui s'appelle Adolphe Adam, et c'est lui qui le mettrait en musique. D'ailleurs, c'est lui qui l'a mis en musique. Mais cette chanteuse a été empêchée de chanter ce chant avant 1847, car elle avait mis au monde un enfant, et son médecin lui avait déconseillé de faire des longs trajets. Donc ça, c'est la première version. Selon la deuxième version de l'histoire, celle que je trouve la plus probable, Placide Capot aurait écrit ce texte à la demande d'un curé qui voulait un chant de Noël. Il aurait écrit ce texte dans la précipitation, dans une diligence en direction de Paris. Adolphe Adam a lui aussi composé la mélodie dans la précipitation avant Noël. Le résultat n'a pas plu à Placide Capot. Par manque de temps, le compositeur n'a pas mis en mélodie tout le texte. Il a même amputé une strophe et arrangé quelques paroles pour qu'elles collent avec la mélodie. Le chant que nous connaissons aujourd'hui est en trois strophes, alors qu'il y en avait quatre au départ. Avant même que les auteurs aient pu modifier leur première version, le cantique s'était répandu comme une traînée de poudre, ce qui a rendu impossible une mise à jour postérieure. En plus de la frustration de voir son texte amputé et légèrement modifié, Placide Capot a écrit, quelques années plus tard, qu'il ne croyait pas en un péché originel à effacer. Je vous lis un extrait de ce qu'il a écrit. « Nous avons cru devoir, alors nous, c'est certainement lui et Adolphe Adam, donc Adam, donc celui qui a écrit la mélodie. « Nous avons cru devoir modifier ce qui nous avait échappé au premier moment sur le péché originel auquel nous ne croyons pas. Nous admettons Jésus comme rédempteur, mais rédempteur des inégalités, des injustices, de l'esclavage et des oppressions de toutes sortes qui pesaient sur l'ancienne société, non d'un péché impossible qui répugne au plus simple bon sens. » Si l'auteur n'y croyait pas, à ce péché originel, pourquoi donc l'a-t-il écrit dans son texte? C'est dans le premier paragraphe. « Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. » Ces premières lignes parlent bien d'une tâche originelle. Selon la Bible, Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Ils ont mangé du fruit de l'arbre défendu. Par cet acte, ils ont manifesté leur désir d'être indépendants de Dieu. Dieu leur a ensuite donné ce qu'ils voulaient. Il les a chassés en dehors du jardin d'Éden, en dehors de sa présence. Et la conséquence, c'est que tous les êtres humains qui sont nés après eux naissent en dehors d'une relation intime avec Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que nous naissons pécheurs. C'est parce que nous naissons dans une humanité qui est coupée de la relation avec Dieu. Et c'est aussi pour cela que Dieu est descendu sur terre, pour rétablir la relation et nous offrir sa présence. Par son œuvre sur la croix, il efface aussi la tâche originelle, ce péché d'Adam et d'Ève que nous reproduisons et dont nous subissons les conséquences. Ce salut est révélé dès le début de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1, verset 21. « Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Dieu est bienvenu nous sauver de nos péchés. Placide Capot ne croyait pas en cela. Pourquoi l'a-t-il donc mis par écrit dans son chant dès le premier paragraphe? Certains pensent qu'il voulait juste répondre à la demande, écrire un texte chrétien sur Noël. Certains pensent aussi qu'il voulait se moquer des chrétiens. Il ferait de l'ironie en présentant un Dieu en colère qui aurait un péché originel a effacé. D'autres pensent qu'il aurait écrit ce texte en étant ivre, et donc il n'était pas vraiment conscient de la portée de son texte. Cette dernière version coïnciderait avec les déclarations de plusieurs prêtres et hommes religieux de son temps qui interdisaient à leurs fidèles de chanter ce chant, car il aurait été écrit par un anticlérical sous l'effet de l'alcool. Alors, cette situation me rappelle celle de Jésus, condamné par les autorités religieuses et les autorités romaines pour cause de blasphème. Jésus a dit qu'il était le Fils de Dieu et l'héritier du trône de David, roi d'Israël. Et on l'a condamné pour cela. On s'est même moqué de lui à cause de l'inscription que Pilate, le gouverneur romain, avait fait placer sur la croix. Jean 19, verset 19. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Cette inscription signalait la raison pour laquelle on mettait à mort les condamnés. On s'est moqué de Jésus parce qu'il a dit être le roi des Juifs. On disait de lui que c'était un menteur. On l'a condamné pour cela. Et pourtant, il l'était vraiment. Pas menteur, mais le roi des Juifs. Concernant le texte de Placide Capot, Dieu est vraiment venu effacer la tâche originelle, la conséquence du péché d'Adam et Ève. Dieu a vraiment un courroux, c'est-à-dire un sujet de colère envers l'humanité, à cause du mal présent dans le cœur humain. Mais il est venu dans le monde et il a ravalé sa propre colère. Il a subi lui-même cette colère sur la croix. L'auteur de Minuit chrétien n'y croyait peut-être pas, mais Dieu utilise ce texte pour nous rappeler son amour, sa venue et son œuvre pour nous. J'aimerais maintenant aborder un peu le contexte politique qui a participé au succès de ce chant. Minuit chrétien a été écrit et composé pour Noël 1847. C'est juste quelques semaines avant février 1848, révolution de 1848. Une révolution qui a propulsé Lamartine parmi les chefs du gouvernement. C'est aussi une révolution qui a mis fin à la monarchie et à l'esclavage. Placide Capot était un socialiste militant pour l'abolition de l'esclavage, pour la suppression des inégalités, pour la fin de la monarchie et la fin des puissants de ce monde. Si l'on fait attention à la deuxième strophe, il est question de l'esclavage, un sujet de débat brûlant à l'époque. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ce qu'enchaînait le fer. Des historiens pensent que Placide Capot a voulu faire passer un message révolutionnaire avec ce chant anti-esclavagiste et anti-monarchique. C'est ce que Placide a lui-même exprimé dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure sous sa plume. Nous admettons Jésus comme rédempteur, mais rédempteur des inégalités, des injustices, de l'esclavage et des oppressions de toutes sortes qui pesaient sur l'ancienne société. Et l'ancienne société dont il parle, c'est certainement la société avant la révolution de 1848. Pour certains commentateurs, lorsque Placide Capot parle de lumière qui nous guide, il s'agirait même peut-être du siècle des Lumières. Lorsqu'il est question du berceau de l'enfant, il s'agirait peut-être de la révolution naissante. Certains commentateurs vont même plus loin. Oui, voilà. Ces commentateurs vont très loin et ce n'est pas en contradiction avec les revendications de l'auteur. Pour résumer, Minuit chrétien a trouvé un écho favorable au sein du peuple, car celui-ci, le peuple, avait soif d'un nouveau monde, un monde meilleur, un monde sans inégalité, un monde sans esclavage et sans oppression. Pour l'auteur, le salut viendra de la révolution politique. Une fois de plus, cela me rappelle le contexte où Jésus est né. Les Juifs étaient sous domination romaine. Ils attendaient un sauveur politique et militaire, un sauveur qui allait les libérer de l'oppression romaine. Mais Jésus est venu leur apporter un salut encore plus grand. Il est venu les sauver du mal, du péché, de la mort. Il est venu proclamer un royaume où la liberté et la justice régneront. Pour conclure, que pouvons-nous retenir comme enseignement de l'histoire de ce chant « Minuit chrétien » ? Ce chant illustre parfaitement Noël à notre époque. Placide Capot a écrit des paroles auxquelles il ne croyait pas. Ou alors il en donnait un autre sens, un sens politique. Aujourd'hui, le monde fête Noël, mais ne croit pas en Jésus. Nous fêtons la même fête que nos contemporains, mais nous n'en donnons pas la même signification. Ce constat nous invite à faire ce que les premiers disciples de Jésus ont fait. Annoncer le vrai salut dans ce monde. Annoncer que le Noël que nous vivons, ce n'est pas avant tout un Noël matérialiste ou un Noël magique. C'est un Noël qui annonce la réconciliation entre Dieu et l'humanité. À l'époque de Jésus, la société attendait un salut politique. À l'époque de Placide Capot, le peuple attendait un salut politique. Et aujourd'hui, le monde attend un salut au niveau sanitaire. Et à l'approche des élections, il y a aussi une attente politique. En tant que chrétiens, toutes ces questions nous touchent, car nous vivons dans ce monde. Mais n'oublions pas que la solution à nos problèmes ne viendra pas de la médecine ou de la politique. Alors, on en a besoin, je ne dis pas le contraire, mais la solution ne vient pas de là. Le salut vient du Christ, venu nous offrir la réconciliation avec Dieu. Continuons de nous impliquer dans la société. Continuons de fêter Noël. Continuons de chanter Minuit chrétien. Continuons de cela, mais en proclamant et en portant la parole de vie. Je termine juste avec cette parole de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 14 à 15, et un peu le verset 16. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Amen. Je vous invite à prendre un chant. Il est venu jusqu'à nous.